Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À quand le retour des classes vertes et des séjours linguistiques? Les voyages scolaires n'ont toujours pas repris. C'est l'un des rares secteurs à ne pas voir le bout du tunnel après 2 ans de pandémie. 90% de chiffre d'affaires en moins pour certains organisateurs. Et vous l'entendrez, pas de sortie de crise malgré l'allègement des contraintes sanitaires. Ils vont raconter leurs souvenirs de cette soirée, quand pour eux, tout a basculé. Les parents de Maëlys attendus à la barre, aujourd'hui au procès Le Landais, nous serons à Grenoble. Au sommaire aussi, des salariés sans papier en grève depuis 2 mois chez Chronopost. Et les techniques des biathlètes français contre le froid extrême aux JO de Pékin.
Au micro de Léa Salamé à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, la chanteuse Angèle, nommée 2 fois aux Victoires de la Musique 2022. C'était, Alexis, l'un des pays les plus stricts contre le Covid à ses frontières.
L'Australie annonce ce matin sa réouverture aux touristes vaccinés dans 15 jours. Et c'est un événement pour un pays fermé, oui, depuis 2 ans. Réouverture aussi dès aujourd'hui de l'espace aérien marocain, tandis que la Grèce et le Portugal abandonnent le test obligatoire pour les étrangers vaccinés. Cette fois, on y croit, les contraintes s'allègent nettement pour les voyageurs. Mais un secteur n'en voit toujours pas la couleur. Les organisateurs de voyages scolaires et linguistiques, ils sont au plus mal entre Covid et Brexit. Toujours pas de sortie de crise pour eux et pas de perspective non plus, Philippe Lefebvre.
Depuis mars 2020, les organisateurs de voyages, de sorties scolaires ou de séjours linguistiques n'ont quasiment rien vendu. Certaines entreprises sont totalement à l'arrêt, d'autres regardent avec inquiétude leur bilan comptable. C'est le cas de Caroline Texier, la directrice d'Horizon du Monde, une entreprise implantée en Charente.
C'est une catastrophe. On a perdu 93% de notre chiffre d'affaires.
Et visiblement, l'assouplissement des mesures sanitaires ne profite pas à ces entreprises. Certains rectorats interdisant toujours les sorties scolaires et selon Simon Thirault, le secrétaire général de l'Union nationale des associations de tourisme de plein air, cela devrait avoir des répercussions bien au-delà des organisateurs de voyage pour ce qui est notamment des classes de neige.
On parle, rien que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'à peu près 1200 classes annulées. On nous dit au niveau national que les séjours peuvent avoir lieu, mais en fait, quand on regarde les décisions départementales, très souvent, il y a des interdictions qui sont formulées, voire même par moment, on incite les professeurs à annuler eux-mêmes ou à reporter.
Et ces entreprises qui, avant la crise, faisaient voyager 5 millions de jeunes par an, attendent des clarifications de la part de l'éducation nationale dans les prochains jours pour tenter de sauver une saison qui, pour eux, s'achève à la fin de l'année scolaire.
Oui, car l'éducation nationale planche plus globalement sur un allègement du protocole à l'école pour la rentrée des vacances d'hiver. Une première réunion est prévue demain entre Jean-Michel Blanquer et les syndicats enseignants. En jeu notamment le port du masque en classe, mais aussi la politique de dépistage. Faut-il renoncer aux autotests? À ce sujet, il y a une piste que la France n'a jamais vraiment explorée. Les tests réguliers, systématiques, répétitifs à l'échelle de toute une classe. Seules quelques écoles pilotes l'ont expérimenté, comme dans cet établissement parisien où s'est rendu Anne Orenstein.
Depuis le 24 novembre 2021, tous les mercredis matins, Lisa a le même rituel.
Je crache dans un tube.
La petite fille de 7 ans a vite appris à tourner sa langue dans sa bouche pour récupérer les 0,5 millilitres de salive nécessaires pour le dépistage.
On l'amène à l'école, on la met dans un bac, comme ça l'école l'envoie au laboratoire. Comme ça, ils voient si on est positif ou négatif.
Les enfants positifs doivent rester à la maison pendant au moins 5 jours, les autres, même cas contact, n'ont pas d'autres tests à faire. Cette expérimentation des tests salivaires réguliers est supervisée par le docteur Véronique Massin, médecin au rectorat de Paris.
Quand la campagne a commencé, c'était le moment où un élève positif entraînait la fermeture de toute la classe. Donc l'idée, c'était vraiment d'éviter la fermeture des classes tout en maintenant un taux de vigilance important pour la surveillance de l'épidémie.
Et ça fonctionne. Le 13 janvier, Lisa est testée positive.
Heureusement qu'il y avait le test parce que j'avais aucun symptôme.
Sa maman, Émilie.
Sans ce test, j'aurais jamais su qu'elle était positive. Elle aurait pu contaminer à son tour. On ne serait pas allé spontanément à la pharmacie se faire tester et du coup, on serait complètement passé à côté.
Bilan donc positif, mais difficilement généralisable à toute la France pour ne pas surcharger les labos.
Le reportage d'Anne Orenstein. La deuxième semaine du procès Le Landais s'ouvre à Grenoble. Nordal Le Landais, jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys en août 2017. Après une première semaine consacrée à la personnalité de l'accusé, parole cet après-midi à la famille de la fillette. Les parents de Maëlys vont témoigner, Mathilde Vinceneuve.
Ils seront les premiers témoins du mariage à s'avancer à la barre. La dernière fois qu'ils ont vu leur fille, c'était au milieu des invités. Dans la salle d'audience, Jennifer, la maman, serre sur ses genoux un portrait de Maëlys et Joachim, le papa, fixe par moments l'accusé, son avocat, maître Laurent Bogué.
Joachim Darougeau n'attend pas grand-chose de la confrontation d'avec Nordal Lelandais. Je crois pouvoir affirmer qu'il n'éprouve pas le besoin d'avoir un échange avec le bourreau de sa fille. En réalité, Joachim Darougeau, il va venir exprimer devant la justice la souffrance, la dévastation qui est la sienne, de manière à ce que la justice fasse son œuvre, c'est-à-dire qu'elle applique à l'encontre du coupable un châtiment adapté à la gravité de ce qu'on lui reproche.
Jusqu'ici, Nordal Lelandais continue de dire qu'il a tué involontairement, il balait toute intention sexuelle. « Je ne l'ai pas fait sur leur fille », lâche-t-il depuis le box en s'adressant aux parents de Maëlys, alors qu'il vient de reconnaître qu'il a touché chez l'une de ses petites cousines. Il va même jusqu'à dire à l'une de ses ex-compagnes venue témoigner à la barre que si elle avait répondu à son SMS envoyé cette nuit-là, la petite serait encore là.
Mathilde Vinceneux pourra-t-il sortir de prison après 2 mois passés en cellule à la santé à Paris ? Claude Guéant va savoir aujourd'hui si sa demande d'aménagement de peine est acceptée. L'ancien ministre de l'Intérieur est incarcéré pour ne pas avoir réglé à temps les sommes qu'il avait été condamné à payer dans l'affaire des primes en liquide. Ils n'ont pas l'habitude et souvent pas les moyens de se révolter contre leurs conditions de travail. C'est donc une grève rare qui dure depuis 2 mois, jour pour jour, à l'agence Chronopost d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. 17 salariés sans papier réclament leur régularisation. Et le mouvement Steven Goyer semble bien parti pour durer encore.
Un peu de charbon pour entretenir la flamme qui réchauffe l'un des barnums bâchés devant le portail de Chronopost. Autour du feu, Aboubakar Dembélé, intérimaire pendant plus d'un an et demi dans l'entreprise, avec des nuits de travail de seulement 3 ou 4 heures et même parfois moins.
Pour venir même à lundi, pour travailler 1 heure, moi je venais à 5h45 et finir à 6h45. Faire 2 heures de trajet pour 1 heure de temps. On doit tourner comme des machines.
Certains portent des colis avec de gros problèmes de dos sans pouvoir s'arrêter.
Un jeune de 28 ans, de 35 ans, qui se balade avec des ceintures au dos, c'est-à-dire le dos est déjà craqué. Il va se mettre à la maladie comment ? La sécurité sociale ne nous reconnaît pas.
Grâce à des papiers d'identité empruntés ou achetés, les sans-papiers sont arrivés ici via des agences d'intérim du groupe de Richebourg, avec moins de garanties que les autres. Christian Schveyer, du collectif des travailleurs sans-papiers.
Un contrat d'intérim, un patron n'a pas le droit de l'arrêter. Pour les sans-papiers, ils s'en foutent, ils le font. Demain, tu viens pas. Qu'est-ce que fait la personne ? Rien, elle peut rien faire.
Difficile aussi de trouver un interlocuteur, explique Jean-Louis Marziani, secrétaire départemental adjoint du syndicat solidaire.
De Richebourg, je dois dire, moi, je les connais pas. Et la Poste, alors encore moins. Tout le monde connaît parfaitement le système et tout le monde se couvre.
Aboubakar Dembélé et ses collègues entendent bien tenir le piquet de grève jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à leur régularisation.
Un reportage Steven Goyer dans le Val-de-Marne. Un crochet par Moscou sans garantie de succès. Emmanuel Macron sera reçu vers 16h par Vladimir Poutine avant de se rendre demain à Kiev. Depuis le début de cette crise ukrainienne, le bras de fer n'est pas seulement diplomatique entre la Russie et les Occidentaux, il est aussi médiatique. Moscou vient de fermer le bureau de la Deutsche Welle en représailles à l'interdiction de la chaîne Russia Today en Allemagne. Justement, on a voulu savoir comment RT couvrait cette crise en Ukraine. Thibault Lefebvre a regardé la version française de la télé pro-Kremlin.
Sur Russia Today, le conflit ukrainien n'est pas une obsession.
Au Canada, les chauffeurs routiers sont toujours mobilisés. Et direction maintenant la Tunisie.
Mais quand le fil d'information varié et sans parti pris évident laisse la place aux interviews de spécialistes, les avis convergent.
Est-ce que la Russie aujourd'hui peut concevoir d'envahir l'Ukraine ?
Bien sûr que non, c'est évident que non.
Non, c'est ridicule.
Et puis, il y a un reportage d'une douzaine de minutes, Donbass, les voix oubliées.
Honnêtement, j'aimerais que la Russie nous protège. Mais elle n'est pas là.
Avec uniquement des témoignages comme celui-ci favorable à une annexion russe et un commentaire élogieux sur la politique du Kremlin.
Pourtant, depuis avril 2019, Vladimir Poutine a signé un décret permettant de faciliter l'obtention de la nationalité russe pour les habitants des deux républiques autoproclamées.
Et pour le spécialiste de la Russie, Maxime Audinet, auteur d'un ouvrage récent sur RT, il s'agit d'une ligne éditoriale assumée.
C'est évident que RT France est dans une couverture des événements qui est au mieux alignée sur le discours officiel et au pire qui a une dimension clairement propagandiste.
Une propagande donc sous souverainiste eurosceptique avec cependant différents degrés. RT France est réputée pour être la chaîne la plus modérée et RT Deutsch, RT Allemagne la plus dure.
Et sollicité par France Inter, RT conteste le manque de pluralité des opinions pendant les débats et assume l'angle du reportage au Donbass dont on vient de parler. Ce lundi est décrété jour férié au Sénégal. Décision du président Macky Sall après la première victoire du pays en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Sénégalais l'ont emporté hier soir au tir au but face à l'Égypte.
Et une deuxième médaille française au JO de Pékin.
À 41 ans, Johan Claret décroche l'argent en descente et devient ainsi le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire du ski alpin. Et ce ne sera peut-être pas le seul podium du jour. On compte aussi beaucoup sur les 4 biathlètes françaises au départ du 15 km à 10h. Comme samedi en relais mixte, il va faire très froid, moins 10, moins 20 degrés sur le stand de tir. Une température exceptionnelle à laquelle il faut bien s'adapter, Jérôme Val.
Et oui, les athlètes ne peuvent pas faire comme nous, empiler les couches pour tenter de contrer ce froid polaire. Ils doivent donc se contenter de leur combinaison, éventuellement une sous-couche. Mais le gros problème en réalité, ce sont les mains, comme le raconte Quentin Fillon-Maillet.
C'est quelque chose qui est assez sensible au niveau du toucher de l'arme. On doit avoir une certaine sensibilité sur les gants. Donc vous imaginez que par ce froid, avec la vitesse en ski, on peut vite se geler les doigts. Et là, le but, c'est de ne pas justement avoir d'onglet et de sentir la totalité de ton doigt pour le tir.
Et là encore, impossible de mettre des moufles ou des gants très épais. Il faut trouver d'autres solutions, comme l'a fait Anaïs Chevalier-Boucher.
Je me suis cousu des surgants. J'ai découpé une paire de moufles que j'ai recousu sur des gants. Voilà, ça m'occupe aussi. Moi, j'aime bien avoir la sensation quand même de la détente sur le doigt. Donc, je ne peux pas tirer avec des gants très épais. En tout cas, j'aime pas ça.
Avec du vent et le froid, l'autre priorité est de ne pas s'engourdir avant le départ. Ça peut être long. Justine Brezaz sera sur la ligne tout à l'heure.
Je pense qu'il faut être très intelligent par rapport au froid. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'échauffer correctement. L'échauffement fait partie du système pour que les muscles et les doigts soient le plus habiles possible.
Au moment du départ ici, en fin d'après-midi, on nous annonce moins 13 degrés avec sans doute un ressenti encore plus piquant. Zhang Jiakou, Jérôme Val, France Inter.
Et puis très prometteuse aussi en ski freestyle, la Française Tess Le Deux s'est qualifiée cette nuit pour la finale du Big Air, ce grand saut, la finale qui aura lieu la nuit prochaine.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.